Aujourd'hui, Babylone est un monceau de ruines. Mais en les fouillant, les archéologues ont trouvé les vestiges d'un royaume glorieux. La ville comprenait 50 grandes avenues qui, en se croisant, formaient 625 places et 676 quartiers d'habitation où les maisons avaient jusqu'à 4 étages. Un écrivain grec écrit que pour plaire à son épouse, originaire du pays montagneux de la Médie, le roi Nabuchodonosor lui avait offert une colline artificielle de 120 mètres de haut couverte de canaux pour qu'elle puisse s'y promener et se rafraîchir. Il s'agit bien sûr de ces fameux jardins suspendus qui étaient comptés parmi les 7 merveilles du monde antique. Construit à l'intérieur de la forteresse de Babylone, il comprenait un ensemble gigantesque de terrasses érigées sur des voûtes. Les ruines de cette infrastructure sont encore visibles aujourd'hui et s'étendent sur une surface de 15 hectares. Sur la rive occidentale droite du fleuve se trouvait le temple de Bel-Nebo, une ziggourate de 7 étages, probablement construite selon le modèle de la tour de Babel. Cette tour colossale était en briques et on accédait aux étages par un escalier extérieur en colimaçon. Sur son sommet se trouvaient des autels sur lesquels on offrait des sacrifices d'animaux. Les Babyloniens étaient alphabétisés et la ville possédait une bibliothèque bien garnie. Enfin, Babylone était entourée d'une muraille haute de 90 mètres et suffisamment large pour accommoder 8 chevaux côte à côte. Il n'est donc pas étonnant que lorsque Nabuchodonosor a rêvé d'une statue métallique, son empire soit représenté par la tête en or. En réalité, Babylone n'était pas invulnérable puisque l'armée médo-perse a réussi à y pénétrer, mais par ruse. En effet, le talon d'Achille de la ville était l'Euphrate, le fleuve qui la traversait. Seulement, il ne suffisait pas de la sécher temporairement afin d'accéder à ses murs. Il fallait encore que les sentinelles ne soient pas vigilantes et que les portes d'accès à la ville ne soient pas fermées. C'est ce qui s'est passé car la prise de Babylone était sous-entendue dans la vision de Daniel qui a vu plusieurs empires se succéder l'un après l'autre. Le premier, Babylone, fut suivi d'un autre, les Mèdes et les Perses. Je continue à lire dans le chapitre 7 du livre de Daniel. Au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Il s'agissait de visions. Il consigna le rêve par écrit pour en raconter l'essentiel. Voici le récit de Daniel. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. Versets 1 et 2. Alors que dans les 6 premiers chapitres du livre, Daniel parle à la troisième personne du singulier dans les 6 suivants, à partir d'ici au verset 2, il s'exprime à la première personne. Il raconte la révélation que Dieu lui donne. Dans cette vision, il a d'abord vu la grande mer agitée par 4 vents. La grande mer représente toujours la Méditerranée, ce qui veut dire que la vision a trait au monde méditerranéen. Dans la mythologie cananéenne, la mer est divinisée et représente le chaos, car c'est le lieu où habite le monstre marin, le Léviathan, qui personnifie les puissances du mal. Dans les Écritures, la mer, par son immensité et sa mobilité, symbolise généralement la masse de l'humanité et surtout le monde païen en révolte contre Dieu. Dans une vision, l'apôtre Jean voit un ange qui lui dit « Viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les eaux que tu as vues représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. » Daniel voit donc 4 vents agiter la mer. Le mot pour vent veut aussi dire esprit ou ange. Cette scène indique une intervention de Dieu dans les affaires humaines, ce qu'il fait en général par l'intermédiaire d'anges. En principe, le vent ne souffle que dans une seule direction à la fois, et ce n'est que lorsqu'il rencontre des obstacles qu'il dévie de sa trajectoire initiale. Mais ce que Daniel a vu est une mer très perturbée par des vents qui soufflent dans toutes les directions en même temps. Cette vision exprime les soubresauts qui ont conduit à l'apparition des quatre empires dont il va être question, et surtout du dernier, Rome. Car de celui-ci naîtra éventuellement une petite corne qui a une bouche qui parle avec arrogance. C'est une référence à l'Antéchrist qui, entre sa propagande et ses stratagèmes, réussira à embobiner le monde entier, du moins pendant un certain temps. Jésus a dit à sa génération, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Il faisait allusion à l'apparition de l'Antéchrist qui sera le bras droit de Satan. Puis Jésus a ajouté, « D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Déjà au premier siècle, mais en fait depuis la rébellion de nos premiers parents, l'humanisme est une philosophie en vogue. Aujourd'hui, on élève et rend gloire à tous ceux qui ont une fonction soi-disant importante dans la société, que ce soit dans le monde politique, religieux, des affaires ou de l'audiovisuel. Les acteurs en particulier sont des idoles au sens propre du terme. Ces stars, comme on les appelle, ont fait du cinéma un endroit respectable, alors que moralement, il ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, la situation s'est encore dégradée avec la multiplication des jeux vidéo qui ne sont, pour la plupart, qu'un vulgaire amalgame de sexe et de violence. C'est l'argent la source de cette corruption et c'est encore l'argent qui propulsera l'Antéchrist au pouvoir. Je continue le texte de Daniel. Quatre bêtes énormes différentes les unes des autres surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais attentivement, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Versets 3 et 4. Ces monstres sortent de la masse humaine en se succédant l'un à l'autre. Il s'agit des quatre rois ou empires qui, dans la statue de Nabuchodonosor, sont représentés par l'or, l'argent, le bronze et le fer mêlés d'argile. Ces métaux symbolisent les empires babyloniens, médo-perses, grecs et romains. Ils sont différents, non pas en puissance, mais en étendue et dans leur façon d'agir, car ils n'ont pas, pourrait-on dire, la même personnalité. Le premier monstre est un assemblage de lions et d'aigles dont l'équivalent est la tête en or de la statue. Le lion est le roi et le plus noble des animaux terrestres et l'aigle celui des oiseaux. Le lion est connu pour sa puissance et sa force brutale. Les ailes représentent la rapidité de déplacement et de manœuvre des armées babyloniennes, mais peut-être aussi l'arrogance de Nabuchodonosor qui voulait s'élever et se faire Dieu. En très peu de temps, ces armées ont écrasé les forces assyriennes et égyptiennes et conquis toute la Palestine. Un général américain a dit « Le premier avec le plus est celui qui gagne », c'est-à-dire le premier arrivé avec le plus d'hommes et de matériel est celui qui gagne. C'est de cette manière que Babylone, Alexandre le Grand, Jules César et ses successeurs, et plus tard Napoléon, ont triomphé des autres nations et établi leur empire. Aujourd'hui, quand une armée a la maîtrise des airs, elle remporte éventuellement la victoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dès que les avions alliés dominaient le ciel, ce n'était plus qu'une question de temps avant que l'Allemagne puis le Japon soient obligés de capituler. Après avoir été l'emblème des souverains assyriens, le lion devint celui des rois chaldéens. On a découvert d'énormes sculptures de lions ailés marquant l'entrée des palais des souverains babyloniens. De plus, dans les Écritures, Nabuchodonosor, le plus grand et le plus glorieux des potentats de Babylone, est comparé à la fois à un lion et à un aigle, tout comme son armée d'ailleurs. Alors que Daniel regarde la scène qui se déroule dans les visions de sa tête, les ailes du lion sont violemment arrachées et un cœur d'homme lui est donné. C'est une référence à l'humiliation sévère de Nabuchodonosor quand il perdit la raison et se mit à brouter de l'herbe, parce qu'il se prenait pour un bœuf. Mais, après 7 années de ce régime, il a enfin reconnu la souveraineté de l'Éternel. Alors, il devint un homme transformé au niveau spirituel, ce qui a rendu son règne plus humain et l'a guéri de sa folie des grandeurs, de sa prétention de s'élever jusqu'au ciel. Ce qui est arrivé à Nabucodonosor est un enseignement pour nous, car il montre que l'orgueil attire la foudre divine, mais aussi que Dieu accorde sa grâce aux humbles. Je continue le texte. Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule trois côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait « Debout, mange beaucoup de chair. » Verset 5. L'ours est un animal très puissant à cause de sa taille, mais aussi très lent, comparé à un lion avec des ailes. Il représente l'empire des Mèdes et des Perses qui devint plus étendu que celui de Babylone, mais son armée innombrable était bien moins agile que celle des Chaldéens. En l'an 480 avant Jésus-Christ, 10 ans après la défaite de Darius contre les Grecs à Marathon, le roi perse Xerxès Ier veut laver l'affront qu'a subi son prédécesseur. Il attaque la Grèce avec plusieurs centaines de milliers d'hommes et une armada de navires, plus de 400. Il réussit à grand peine et grâce à une trahison à vaincre les Grecs sur terre et il incendie Athènes, mais plus de la moitié de sa flotte est détruite. Et l'année suivante, il est battu par les Grecs. Ce n'était pas encore la fin du grand empire perse, mais un observateur attentif aurait pu discerner des signes avant-coureurs qui désignaient déjà le prochain empire. L'ours est l'équivalent de la poitrine et des bras en argent de la statue du rêve de Nabucodonosor. Il apparaît dressé sur un côté, ce qui signifie que l'un des deux alliés aura la prépondérance sur l'autre. Depuis le fondateur de la dynastie Mède, ses rois régnaient d'abord sur les Mèdes, puis sur les Perses. Mais après la venue de Cyrus, cet équilibre fut inversé et la Perse domina les Mèdes, ce qui apparaît dans la vision de Daniel avec l'ours plus élevé d'un côté. Le livre de Daniel fait une distinction entre les rois Darius et Cyrus, mais il considère que Babylone fut sous la tutelle d'une seule monarchie, celle jointe des Mèdes et des Perses. D'ailleurs, plus loin, ces deux peuples sont représentés par un seul animal, le bélier à deux cornes. Tout ça pour dire qu'il n'est pas possible de scinder les Mèdes et les Perses comme le font certains commentateurs d'obédience libérale et de les considérer à part dans la prophétie de Daniel. Que ce soit la poitrine et les bras en argent de la statue de Nabucodonosor ou l'ours dans la vision de Daniel, ces deux images représentent les Mèdes et les Perses ensemble. Ces observations sont un peu barbantes, mais elles permettent aussi d'interpréter correctement les Écritures. Les trois côtes dans la gueule de l'ours sont une image des vastes conquêtes de l'Empire Médo-Perse dans trois directions, l'ouest, le nord et le sud. L'ordre qui est donné à l'animal de se lever ne veut pas dire qu'il était couché puisqu'il vient tout juste de sortir de la mer. Cette apostrophe veut dire « vas-y, en avant ». Et « mange beaucoup de chair » exprime l'avidité avec laquelle cet empire s'est emparé des richesses des peuples conquis. L'ordre signifie donc « accomplis ton rôle dans l'histoire et que rien ne t'arrête ». Je continue le texte. Après cela, je continuais à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Le pouvoir lui fut donné. Verset 6. Ce fauve correspond à la partie de la statue de Nabucodonosor qui est le ventre et les hanches en bronze et représente la Grèce. Le léopard est un animal particulièrement agile qui peut faire soudainement de très grands bonds. Si en plus on lui ajoute 4 ailes, ce monstre va se déplacer à une vitesse vertigineuse sans toucher terre. Et effectivement, en l'espace de 4 ans environ, Alexandre le Grand a conquis la totalité de l'Empire perse, dont Babylone et l'Égypte, où il fonde Alexandrie. Ensuite, il alla jusqu'aux Indes, mais l'épuisement de ses troupes l'a obligé à revenir en Perse. En l'espace de 8 ans, son armée aura parcouru 18 000 kilomètres. Alexandre le Grand échange alors son rôle de conquérant pour celui d'administrateur et tente d'imposer son hégémonie. Il réorganise son empire et accorde les mêmes droits aux Perses qu'aux Macédoniens, sa patrie. Il crée une monnaie unique et impose le grec comme langue international. Mais il décède subitement à Babylone à l'âge de 33 ans à la veille de nouvelles conquêtes. Les 70 villes qu'il aura fondées pendant son règne répandront la culture grecque en Méditerranée orientale et en Perse. Alexandre avait instauré un culte impérial qui servira plus tard de modèle au César romain. Après sa mort, ses quatre généraux se partagent le gâteau, c'est-à-dire son empire, prennent le titre de roi et établissent quatre royaumes qui sont représentés par les quatre têtes du léopard. Deux d'entre eux, l'Égypte et la Syrie, seront constamment en guerre, chacun cherchant à annexer l'autre et à contrôler la Palestine. Dans le chapitre suivant, il sera question d'un autre monstre, un bouc avec une corne qui se brise et qui est remplacé par quatre autres qui représentent aussi les quatre généraux d'Alexandre le Grand, lui-même étant la première grande corne, celle qui se brise. Je continue le texte. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une quatrième bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. Verset 7. La répétition dans mes visions nocturnes annonce quelque chose de nouveau. Il s'agit de la venue d'un monstre plus terrifiant que les précédents. Alors que Daniel a essayé de comparer les trois premières bêtes qui lui sont apparues à des animaux qu'on peut voir dans un zoo, comme un lion, un aigle, un ours ou un léopard, ce dernier monstre ne ressemble à rien de connu. C'est pourquoi Daniel n'essaye ni de l'identifier, ni même de lui donner un nom. Cependant, tout porte à croire que dans la révélation qu'il a reçue, l'apôtre Jean a vu la même chose que Daniel. En effet, il l'a décrit possédant 10 cornes, tout comme le monstre de Daniel. Je lis le passage de Jean. « Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Fin de citation. Le quatrième monstre que Daniel aperçoit dans sa vision correspond à l'Empire romain. Il est représenté par les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile de la statue de Nabuchodonosor. Alors que les fauves précédents étaient féroces et détruisaient tout sur leur passage, ce monstre-ci est bien pire. Quand Daniel a interprété ce quatrième empire au roi de Babylone, il a dit « Il sera dur comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces, ainsi il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes », ce qui est cohérent avec ce qu'il dit ici du monstre qui est effrayant, terrifiant et d'une force extraordinaire. Il dit aussi qu'il a d'énormes dents de fer qui dévorent, déchiquettent et piétinent ce qui reste de ses victimes. Ce quatrième animal est donc très différent des précédents, ce qui explique aussi pourquoi Daniel s'attarde davantage sur lui que sur les trois autres. La principale caractéristique du premier monstre était sa majesté, du second sa voracité, du troisième son agilité, et du quatrième sa force brutale, sa férocité et sa formidable puissance de destruction. Avec ses dents de fer, c'est davantage une machine à broyer qu'un animal. Il ne connaît pas la pitié et lui résister est fatal. Comme je l'ai déjà dit, les 10 cornes de ce monstre correspondent aux 10 orteils de la statue. Or, dans le symbolisme des textes sacrés, la corne représente un pouvoir et la force, et le chiffre 10 un ensemble, une totalité. Plus loin, il est dit qu'il s'agit de rois ou états, et ils ne se succéderont pas, mais existeront ensemble. Le quatrième empire se divisera donc en plusieurs entités qui formeront une alliance. L'empire romain a commencé par absorber l'Égypte, la Syrie, les Balkans et la Grèce, puis a continué à faire tache d'huile pour atteindre son zénith sous l'empereur César Auguste. Il a surpassé tous les grands empires précédents et rien n'échappait à sa puissance. l'Empire romain fut le premier qui avait des frontières en Orient et en Occident. Il devint tellement grand qu'il était impossible à quiconque de le fuir. Or, c'est au moment où Rome atteint son apogée que se déroule la première phase du royaume de Dieu, avec l'apparition de Jésus-Christ. Puis, en même temps que l'Église se développe, l'Empire subit les coups de boutoir des invasions barbares qui réussissent à le disloquer à cause de sa corruption interne. Il se divisera alors progressivement en une multiplicité d'États qui sont représentés dans les visions de Daniel par les 10 cornes et les 10 orteils. Dans l'avenir, l'Empire romain se reconstituera sous la botte d'un nouveau César, mais après 7 ans de règne aura lieu la seconde phase du royaume de Dieu avec le retour triomphant du Messie qui viendra établir son royaume de 1000 ans sur terre. Un jour, ces prophéties sortiront des pages des textes sacrés pour s'accomplir et faire la une des journaux.